Lyon, son jardin botanique, ses grandes avenues, ses montées et ses descentes, et bien sûr, son festival Lumière. Bonjour, je suis Pierre Charpioz et vous écoutez La Grande Vadrouille, le Tour de France des festivals de cinéma, par Revue et Corrigée. Lumière du jour, dernier épisode, sixième et dernier épisode. Aujourd'hui, on vous quitte en beauté. Au programme, on fera un tour des Pays Basques en compagnie de Rocheán Fernández, le directeur de la Cinémathèque Basque. On parlera de cinéma classique en salle avec François Cos de la Filmothèque du Quartier Latin et de Ciné Sorbonne. Et on vous réserve aussi un petit bonus. La team Revue et Corrigée partagera ses coups de cœur du festival. Mais tout d'abord, on retrouve le journaliste Jean-Pierre Lavoignat pour parler de James Gray et de La Nuit nous appartient.
Ça parle de deux frères qui s'affrontent. Le père est flic. L'un des deux a choisi de suivre le droit chemin et d'être flic. L'autre a choisi, je ne sais pas si c'est le mauvais chemin, mais un autre chemin. Il gère une boîte de nuit où rôde la mafia russe. Donc autant l'un lutte contre le trafic de drogue, l'autre on ne sait pas bien quel rapport, voilà. Et c'est ce que j'aime dans ce film, c'est comme j'ai dit, c'est que c'est une tragédie grecque où les pères s'affrontent au fils, les frères se mesurent chacun l'un à l'autre, où le destin et la fatalité mènent la ronde. J'adore le cinéma de James Gray qui est certes très classique, mais à la fois romanesque et inspiré.
Ça ressemble pour vous aux autres films de James Gray, y compris aux films récents? C'est vrai qu'il s'attaque à des genres assez différents.
Alors non. Là, on dirait presque que ça clôt la première trilogie de son œuvre, qui commence avec Little Odessa, après il y a The Yards, et après il y a La Nuit nous appartient. Ces trois films-là sont assez liés. C'est à chaque fois des tragédies familiales, des déchirements intimes de personnages qui s'affrontent, qui sont confrontés entre les valeurs d'un monde qui est en train de disparaître et les nouvelles valeurs entre guillemets d'un monde qui arrive et comment on est partagé entre les deux. Et j'aime bien cette espèce d'ambiguïté là et d'épaisseur là, puisque par exemple dans La Nuit nous appartient, certains spectateurs sortent avec la certitude que c'est un film qui défend la police et la loi, et les autres au contraire que c'est un film qui montre que c'est un vain combat. Donc c'est ça qui est beau. Alors je dirais que ces trois films là sont liés, mais après tout Lovers marque une rupture dans son œuvre. Et après on voit bien les nouveaux genres de cinéma qu'il a abordé, que ce soit The Lost City of Z ou Ad Astra. Il y a quelque chose de... Il y a toujours quand même des déchirements intimes, il y a toujours une exploration de puis quand même toujours des rapports familiaux, ça reste quand même toujours présent dans son œuvre.
Un film pour commencer, quand on n'a jamais vu de film de James Gray, La Nuit nous appartient, ou vaut mieux commencer dans l'ordre de la trilogie?
Non, on n'est pas obligé de commencer dans l'ordre. La Nuit nous appartient, c'est vraiment bien. En plus, comme tous les films de James Gray, les acteurs sont éblouissants. Là, il y a Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg, les deux qui étaient déjà dans The Yard. Et Joaquin Phoenix sera à ce moment-là une sorte d'alter ego de James Gray, puisqu'il jouera dans Two Lovers juste après. Mais le premier Little Odessa, par exemple, c'est une tragédie déchirante, avec Edward Furlong qui a hélas quasiment disparu, mais c'est des scènes magnifiques. Puis il y a toujours des figures tutélaires, par exemple dans La Nuit nous appartient, il y a Robert Duvall qui joue le père, et James Gray se... Moi, je trouve qu'il est dans la filiation, et il la revendique, des cinéastes, des grands cinéastes américains des années 70, soit Friedkin, Scorsese, Coppola, bien sûr. Et puis, il adore le cinéma européen. Il y a Visconti, il y a toujours l'ombre de Rocco et ses frères, pas très loin, en tout cas dans ces trois films-là. Et puis, j'oubliais, quand même, dans La Nuit nous appartient, il y a Eva Mendes. Et franchement, la scène d'ouverture, c'est une des scènes les plus sensuelles qu'on ait vues au cinéma depuis très longtemps. Donc peut-être c'est le bon film pour commencer à aimer James Gray.
Alors aujourd'hui, on est vendredi et Jean-Pierre Lavoignat, à 16h, vous signez votre nouveau livre. On est là sur du cinéma français, européen, mais aussi une relation entre une actrice et un réalisateur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots?
Bien sûr. Moi, depuis toujours, j'aime les films de Claude Sauté et j'ai grandi avec, presque. Et c'est presque eux-mêmes. Enfin, c'est pas presque. Ils ont fait partie des films qui ont nourri ma passion du cinéma et presque mon désir de devenir journaliste de cinéma, ou mon rêve, en tout cas. Et j'ai toujours aimé Romy Schneider aussi. Et je suis fasciné par ce duo metteur en scène-actrice qui a quand même fait 5 films, dont au moins 3 ou 4 d'entre eux ont compté beaucoup. Et c'est une relation unique. Et du coup, j'avais envie d'explorer cette relation-là, d'essayer de m'approcher le plus près possible du mystère de cette complicité professionnelle. Et je leur ai consacré un livre qui est à la fois un vrai livre de texte, mais aussi un album photo chez La Martinière avec des très très belles photos. Et surtout, c'est presque la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, des documents personnels que m'a prêté Yves Sauté, le fils de Claude, et où il y a des feuilles de service, des lettres de Romy Schneider, des télégrammes, le dessin, le plan de l'accident, des choses de la vie, voilà, pour tous les fétichistes. Moi, j'ai adoré faire ce livre sur cette relation unique. Voilà, ça s'appelle Romy Schneider, Claude Sauté, un coup de foudre créatif. C'est lui-même qui disait ça, et il disait « Notre rencontre nous a illuminés tous les deux ». Donc j'ai essayé de traduire ça dans le livre. Il sort le 28 octobre, 50 ans et un jour, pile après la sortie de César et Rosalie.
Allez, direction l'EMFC, où je le rappelle, l'Espagne était à l'honneur, et où nous attend Roxane Fernandez, le directeur de la Cinémathèque Basque.
Notre travail au sein de la Cinémathèque Basque, c'est comme, je dirais, n'importe quelle cinémathèque, n'est-ce pas ? Notre but est de conserver, de restaurer, de faire de la diffusion aussi du cinéma, en général, du cinéma basque en particulier, et depuis 1978, parce que la Cinémathèque basque a été la première cinémathèque d'une communauté autonome dans l'État espagnol, juste après la mort de Franco.
Et ce que vous appelez le cinéma basque, c'est quoi ? C'est le cinéma en langue basque ? C'est le cinéma qui est produit dans la communauté autonome basque ?
C'est une bonne question. On est, écoutez, moi, mon point de vue à la Cinémathèque basque est très clair. C'est-à-dire, on est très ouvert d'esprit. C'est-à-dire, pour nous, tout ce qui nous intéresse de conserver, c'est le cinéma lié au Pays basque. C'est-à-dire, réalisé par des Basques, réalisé en langue basque, réalisé dans d'autres langues, réalisé par rapport au Pays basque, même par de réalisatrices ou de réalisateurs étrangers, enfin, peu importe, tout ce qui est cinéma lié au Pays basque nous intéresse et on ne rentre pas dans la définition de qu'est-ce que c'est que le cinéma basque, etc. Ça, ça a plutôt un côté universitaire très intéressant, mais nous, on est vraiment très, très ouverts d'esprit.
Du coup, ça représente combien de films ? Enfin, j'imagine que c'est lié à une histoire aussi particulière.
Oui, ça a été toujours lié à une histoire. Je pense qu'on ne peut, je le dis très souvent, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre l'histoire du cinéma au Pays basque si on ne comprend pas en général l'histoire. L'histoire de l'Espagne aussi, il faut le dire, parce que, par exemple, entre 1936 et 1939, il y a eu une guerre civile. Juste après, il y a eu presque 40 ans de dictature, donc c'était pas possible de tourner de films en langue basque, par exemple. Mais bon, il y a eu aussi énormément de réalisateurs, des artistes qui ont dû quitter les pays, qui se sont exilés en Amérique, en Europe, etc. Donc voilà, c'est toujours une histoire très liée à ça. À partir de 1978, l'arrivée de la démocratie, peu à peu, etc., il va y avoir là un cinéma basque qui va se développer, avec, je dirais, surtout trois grandes générations de cinéastes, une génération des années 80, dont Moncho Armendáriz, Víctor Erice, Pedro Lea, Imanol Uribe, etc., qui vont faire un cinéma très, très intéressant et vraiment très puissant, je dirais. Après, ils ont tous presque parti à Madrid parce que l'industrie cinématographique s'est trouvée là-bas. Donc, on ne s'y attendait pas, mais finalement, dans les années 90, il y a une deuxième génération qui a été formidable aussi, avec Alex de la Iglesia, Julio Medem, Bajo Ulloa, Calpar Soro, Elena Taberna, etc., etc. Et puis finalement, et j'ai fini, la deuxième génération est parti aussi vers Madrid, il faut le dire. Et puis, il y a une troisième génération qui travaille pour l'instant surtout au Pays basque. Très souvent, et c'est une grande différence, très souvent en langue basque, en castillan aussi, hein, bien sûr. Et finalement, on voit beaucoup plus de femmes réalisatrices, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc il y a un enjeu de diffusion, c'est uniquement pour les spectateurs du Pays Basque, c'est pour l'Espagne en général, la France en général, au-delà.
Écoutez, nous faisons une programmation depuis, moi je suis arrivé à la tête, à la direction de la Cinémathèque Basque en 2011, je venais de la France, je suis basque, mais j'ai beaucoup appris ici, je suis cinéphile et francophile, et donc pour moi la diffusion était absolument incontournable. Et la Cinémathèque Basque n'avait pas de programmation stable. Donc finalement, on a travaillé là-dessus, et puis surtout avec notre nouveau siège à Tabacalera, une grande usine de tabac, une ancienne usine de tabac de 37 000 m2. On travaille avec les festivals de Saint-Sébastien, on travaille avec l'école de cinéma, Elias Querejeta, on travaille avec Tabacalera en tant qu'usine de création artistique et cinématographique, et on travaille vraiment tous ensemble, et on a réussi à mettre en place une programmation. Et pour la Cinémathèque Basque, là maintenant on est en train de programmer dans 5 villes basques toutes les semaines, c'est-à-dire à Bilbao, à Saint-Sébastien, à Vitoria, et avec deux accords avec deux salles privées, à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque français, et à Pampelune. Donc voilà, je pense qu'on est en train de faire d'énormes progrès là-dessus.
Quand vous êtes ici, par exemple, à Lyon, au marché international du film classique, est-ce qu'il y a aussi un peu une mission de promouvoir ce cinéma-là et la culture basque par cet intermédiaire ?
Ça, d'abord, mais aussi d'apprendre. C'est-à-dire, on est tellement, au Pays Basque, on aime tellement le travail qu'il fait l'Institut Lumière et le Festival Lumière ici, qu'on a, on leur a dit, venez travailler avec nous. Et ils ont accepté, enfin, Maël Arnaud, Irène Jacob et Thierry Frémont sont venus présenter quelques films parce qu'on a travaillé avec eux pour faire un cycle qu'on a appelé les séances lumière entre avril et juin, donc 5 villes encore. Et puis voilà, ils ont tous les trois venus présenter des films qui ont été des films marquants pour l'histoire de l'Institut Lumière. Et donc on travaille déjà avec eux, tellement on aime ce qui a été fait ici, ce qui s'est fait ici. Et moi, je le dis souvent, je pense qu'il faut beaucoup apprendre. Moi, j'ai travaillé à Saint-Sébastien, à 20 km de la frontière avec la France, qui n'est pas une véritable frontière, bien sûr. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre ici, parce que tout ce qui est cinéma, tout ce qui est patrimoine cinématographique a été historiquement, je dirais, plus important ici qu'en Espagne en général. Donc, il faut apprendre et il faut parfois copier. Parce que ici, je pense qu'il y a un amour du cinéma, etc., que parfois je retrouve moins en Espagne. Je disais l'autre jour, lors de mon intervention là, dans la table ronde, je disais que parfois je trouvais que l'Espagne est malade, parfois, de ne pas admirer suffisamment ses artistes. Alors que la France, moi je vois bien ça dans le domaine du cinéma, c'est à l'opposé de ça. On admire le cinéaste français. Quand je voyais ici Bertrand Tavernier se promener et voir comme tout le monde regardait le grand cinéaste, le grand messie du cinéma qui était Bertrand, je me disais, j'aimerais bien avoir ça aussi en Espagne en général et au Pays Basque en particulier.
Avec votre autre casquette de programmateur pour le festival de Saint-Sébastien, il y a des liens, entre les deux. Il y a une partie aussi cinéma classique.
Oui, tout à fait. Nous avons toujours au festival Saint-Sébastien une rétrospective classique depuis très très longtemps. Cette année, on a fêté nos 70e anniversaire et on a toujours une rétrospective classique. D'ailleurs, cette année, ça a été Claude Sauté, une rétrospective d'un réalisateur français. Et j'irai même plus loin. Vous allez pouvoir constater la collaboration avec l'Institut Lumière. On a traduit un ouvrage publié par l'Institut Lumière et Actes Sud, Conversation avec Claude Sauté, du journaliste Michel Boujou. Donc on est tout le temps en train de travailler avec l'Institut Lumière et on aime beaucoup ça. Et en plus, depuis 3 ans déjà, on a créé une autre section qui s'appelle Classicoac, donc les classiques en basque. Et là, on programme des classiques restaurés, etc. Un peu comme ici, c'est une petite section, mais je pense que ça va devenir de plus en plus grande.
On reste un peu au marché international du film classique pour échanger avec une personnalité du cinéma classique, François Causse, le fils de Jean-Max Causse, que tous les cinéphiles parisiens connaissent. Il avait notamment cofondé le réseau de salles Action. François Causse est le directeur de la filmothèque du Quartier Latin, mais aussi un distributeur de films classiques avec Ciné Sorbonne. Bon, des films qui ont en commun quand même d'être des films américains, est-ce que c'est un des éléments pour définir la ligne éditoriale ou pas forcément de Ciné Sorbonne ?
Je pense que oui. On pourrait ajouter d'ailleurs Les Enchaînés et Rebecca, deux Hitchcock qu'on n'avait pas vu en version restaurée jusque-là. C'est vrai qu'on a un petit tropisme américain. Ça vient du fait qu'on entretient de bonnes relations depuis longtemps avec les ayants droit américains, qu'on aime bien ce cinéma-là, qu'on voit un peu moins sur les écrans de patrimoine. Et c'est très bien aussi qu'il y ait du partage et de la variété avec notamment le patrimoine européen, les films italiens, français, le patrimoine japonais qui est très à la mode. Mais voilà, nous, on maintient un petit peu la flamme du patrimoine américain et souvent hollywoodien dans l'actualité du patrimoine.
Pourquoi, étant exploitant, avoir eu envie de lancer aussi une structure de distribution sur le cinéma classique ?
Au départ, ça obéissait à un impératif d'indépendance, parce que quand on a lancé la Filmothèque, les distributeurs ne nous faisaient pas forcément confiance. C'est une salle qui n'était pas une salle traditionnelle du patrimoine, donc on avait complètement changé la ligne éditoriale et il était important qu'on puisse s'appuyer sur des rééditions, et pour cela il a bien fallu qu'on s'appuie sur nos propres forces. Et puis par la suite, c'est devenu, je dirais, une activité à part entière et qui a dépassé le cadre strict de la Filmothèque.
Et vous choisissez vos films comment ? C'est sur des envies, c'est des disponibilités ? Comment ça se passe ?
Là, je vous répondrai la même chose que c'est la même question qu'on me pose pour la Filmothèque en tant qu'exploitant. C'est-à-dire, pourquoi vous passez tel ou tel film ? Je dirais que c'est un mélange d'envie et de possibilités, voilà, comme, comme pour tout. C'est-à-dire qu'on se tient beaucoup au courant de l'actualité des catalogues, des restaurations, des changements de droit, pour essayer de savoir ce qui est disponible ou pas. Et après, on fait notre choix dans ce qui est disponible, en fonction de nos goûts, de nos envies, des attentes du public aussi, de ce qu'on sait. Par exemple, Les Enchaînés, c'est quelque chose qui s'imposait parce que c'est un film incontournable dans l'histoire du 7e art, c'est un grand Hitchcock, il n'avait jamais été réédité, donc c'est quelque chose de capital. Pour d'autres films, quelquefois, ça répond plus à, je dirais, à une passion, une envie, comme par exemple, on aime beaucoup Jean Grémillon. Et on va ressortir L'étrange Monsieur Victor en collaboration avec Pathé. Donc ça, c'est une restauration qui a déjà eu lieu. Ça, c'est un film peut-être qui est un peu plus difficile sur le marché du patrimoine, mais ça nous intéresse de le ressortir parce qu'on aime beaucoup de cinéastes. Et du coup, ça va être tout notre l'enjeu de cette sortie, ça va être de le faire découvrir au public et de pouvoir le diffuser le plus possible. Et je dirais que là, tout repose un peu sur les épaules du distributeur. C'est à lui de faire en sorte que ce film soit de nouveau désiré par le public et au premier chef par les exploitants qui peuvent le diffuser.
L'étrange Monsieur Victor, un film avec une dimension assez étrange et des personnages très très forts et hauts en couleur qu'il faut effectivement découvrir. Ça représente combien de films par an, votre line-up ?
Alors ça varie, ça dépend des disponibilités. Actuellement, on tourne autour de 6 films, 6-7 films par an.
C'est stable, c'est toujours à peu près ça, ou ça dépend plus des moments ?
C'est stable compte tenu de notre activité, compte tenu de la structure, parce que finalement nous ne sommes que 2 ou 3 à travailler selon les périodes sur le patrimoine. La question, c'est aussi de savoir combien le marché peut-il absorber de rééditions dans l'année. Et je pense que déjà, on est à la limite de la saturation. Donc notre ambition n'est pas forcément d'augmenter le nombre de titres, mais plutôt de mieux travailler, de mieux en mieux travailler les titres.
Vous le trouvez de plus en plus compétitif, le marché du cinéma classique ?
C'est un marché qui a besoin de renouvellement, comme tous les marchés après la Covid. Je pense qu'on a vécu une période qui a vraiment rebattu les cartes. Et c'est vrai aussi en matière de patrimoine. Le patrimoine, c'est une sorte d'écosystème qui a été plutôt préservé. Je dirais que les résultats sont beaucoup plus encourageants que pour les exclusivités actuellement. Les exclusivités qui ont leurs propres problèmes, comme l'hémorragie de films qui se retrouvent sur les plateformes, etc. Donc le patrimoine, je pense qu'il y a un vrai regain du patrimoine en ce moment, dont il faut essayer de tirer parti, pour trouver les films qui seront les plus à même d'attirer le public dans les salles. Mais je pense qu'on a vraiment des atouts à faire valoir, parce qu'il y a une demande de... Une véritable curiosité du public pour les classiques et pour l'histoire du cinéma qui a été renouvelée vers cette période difficile qu'on a traversée.
Oui, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup en ce moment de crise du cinéma en salle. Il y a les appels pour les états généraux du cinéma qui ont notamment relayé cette question. Vous le ressentez moins hein, sur le cinéma classique. Ça, je vous pose la question aussi en tant qu'exploitant.
Je dirais qu'on s'est toujours un peu posé la question de la crise. Parce que, par définition, un film classique, c'est un film qui a déjà été vu. Donc pour les gens qui est un film ancien, entre guillemets, pour ne pas dire vieux, entre deux guillemets, voilà. Et comme disait Godard, on parle toujours de vieux films alors qu'on ne dit jamais un vieux livre. Voilà. Et en fait, notre travail consiste à remettre au goût du jour, à remettre sous les feux de l'actualité, à remettre en phase un film classique avec le public d'aujourd'hui. Voilà. Alors le film en lui-même a les atouts pour le faire, mais pour toutes sortes de raisons, il y a toutes sortes d'obstacles qui empêchent souvent le public de retrouver le chemin des salles obscures quand il s'agit d'une réédition, parce que c'est quelque chose de moins facile à vendre entre guillemets qu'une nouveauté. C'est vrai que les nouveautés occupent beaucoup de place dans l'espace médiatique. C'est là que commence le travail du distributeur pour essayer de redonner au film un prestige qu'il a perdu, notamment en s'appuyant sur les versions restaurées qui sont devenues, je dirais, quelque chose d'incontournable. Quand vous voyez par exemple le Festival Lumière, il a bâti son succès justement sur la qualité des restaurations et la possibilité de présenter les films en fait dans les films classiques dans les meilleures conditions possibles. Et je dirais pas tels qu'ils étaient au moment de leur sortie, puisqu'on est passé de l'argentique au numérique, mais dans des conditions de qualité comparables.
C'est vrai que Ciné Sorbonne, le nom évoque tout de suite une certaine époque des ciné-clubs dans le quartier latin, et puis tout ce réseau de salles, y compris la Filmothèque, qui est un lieu emblématique du 5e arrondissement. Et l'idée aussi de choisir ce nom, c'était un peu de raviver un peu cette mémoire ou...
Alors, au risque de vous décevoir, le nom existait déjà, hein, parce que c'est le nom de la société, de la structure qui s'occupe à la fois de l'activité d'exploitation et de distribution, et ce nom était préexistant. Mais c'est vrai que ces connotations nous conviennent tout à fait.
Et là, votre quotidien pendant le Festival Lumière, là, on approche de la fin, mais c'était quoi ? Vous êtes venu pour voir des films ? Vous êtes venu en tant que distributeur, en tant qu'exploitant ?
Alors un peu les deux, avec les deux casquettes dans ma valise, qui n'était pas trop lourde heureusement. Mais je suis resté assez peu de temps, je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup de films, j'aurais bien aimé le faire, mais en fait j'ai surtout consacré mon temps à des rencontres professionnelles. C'est l'occasion notamment de voir des correspondants qui se trouvent dans les pays anglo-saxons et qui viennent très peu en France. Donc là, c'était vraiment l'occasion de les voir, d'avoir un dialogue direct avec eux sur pas mal de choses, et même de voir des professionnels qu'on n'a pas toujours le temps de voir à Paris de façon régulière. Ici, on prend le temps de voir les gens et de voir des films aussi.
Allez, il nous en reste un peu, je vous en mets un peu plus. On ne voudrait pas vous quitter sans partager les coups de cœur du Festival Lumière, de la rédaction de Revue Écorigée. Nous voilà donc en compagnie du Triumvirat, à la tête de Revue Écorigée. Donc on a Alexandre Matisse, le rédacteur en chef, Marc Moquin, le directeur éditorial, et Eugénie Philo, la directrice de publication. Alors on va commencer par les coups de cœur de chacun. On va commencer par toi, Alexandre. Ton coup de cœur de ce festival, quelle découverte la plus importante ?
Alors, c'est un film qui s'appelle Time to Love. Alors, je vais essayer de ne pas mal prononcer le nom du réalisateur, qui s'appelle Metin Erksan. Je crois que j'y suis bien arrivé. En fait, c'est un film turc et ça fait partie de ces découvertes qu'on fait au Festival Lumière, de films qui avaient quasiment disparu de la circulation et qui bénéficient d'une nouvelle copie, d'une nouvelle restauration. Alors, il faut savoir que c'est Mubi à l'international qui s'en est occupé, donc Mubi qui est aussi installé en Turquie, et ils l'ont restauré. C'est assez touchant déjà, rien que pour cette restauration, parce qu'il y a un carton du début qui nous prévient que c'est sûrement la dernière restauration qu'on aura du film, parce que l'original est trop dégradé et que donc il va vraiment falloir profiter de cette version-là. C'est un film du milieu des années 60, 1966, et je trouve que ça a son importance parce que je trouve qu'on ressent, on trouve quelque chose d'Antonioni sans vouloir écraser le film. Alors je m'explique, c'est que le pitch déjà est quelque chose de très beau, c'est l'histoire d'un homme qui, tous les jours, s'introduit dans la maison de vacances abandonnée sur une île. Elle n'est pas abandonnée, mais personne n'y vit au quotidien. Et il rentre, il s'installe devant le portrait d'une jeune femme, et il rêvasse devant. Et en fait, il est tombé amoureux du portrait de cette jeune femme. Sauf qu'évidemment, quand le film commence, cette jeune femme arrive avec des amis dans la maison, et elle le rencontre. Donc ça commence sur... Ah, vous êtes tombé amoureux de mon portrait, mais ça veut dire que vous m'aimez. Et il lui dit, non, je ne vous aime pas vous, j'aime votre portrait. Et la première partie, ça va être non pas une romance parce que finalement ils vont s'aimer, c'est je ne veux pas vous rencontrer, je veux aimer l'image, je ne veux pas être déçu d'une certaine manière de la rencontre que je pourrais faire de la personne que vous êtes, quand même cette femme a l'air très gentille, très belle, très tout ce qu'on veut. Et au début, il la rejette pour ça. Évidemment que dans un deuxième temps, la romance va vraiment avoir lieu, mais elle va être toujours empêchée par quelque chose qui va être de l'ordre de l'incommunicabilité ou même de l'ordre social. Et là-dedans, on retrouve évidemment ce qu'on retrouvait chez Antonioni. On pense pas mal à la Ventura dans certaines scènes. Déjà parce que le film est en noir et blanc et qu'on est un peu sur ce même genre de noir et blanc. Parce que dans la composition des cadres avec quelqu'un en premier plan et quelqu'un un peu de trois quarts, un peu derrière, on a des plans de ce genre-là. Donc, on retrouve un petit peu ce ton-là. Après, le film est quand même beaucoup plus drôle, c'est-à-dire qu'il y a un vrai humour qui se dessine, et en fait, ça permet de contrebalancer ce qui pourrait nous paraître un petit peu too much en termes de romance. Ils s'aiment très fort, quoi. Ils s'aiment vraiment très très fort. Et du coup, ça permet de contrebalancer, c'est très très beau, je trouve, comme film. C'est à la fois touchant, un peu comique, ce qu'il faut de drame, et puis c'est une vraie belle découverte d'un cinéma qu'on ne connaît pas si bien, le cinéma de patrimoine turc, qui nous parvient quand même assez rarement. Et j'espère qu'il aura une distribution à un moment en France, qui passe sur Mubi ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est un film qui vaut vraiment le coup.
Pour l'instant, il n'y a pas de sortie, on ne sait pas encore.
Non, alors est-ce que Mubi va s'en charger? Je ne sais pas. Les gens de Mubi Turquie devaient venir, ils ont eu des petits problèmes de visa, donc on a eu la directrice de Mubi France qui nous a présenté le film, mais visiblement, elle n'était pas en mesure de savoir ce qui se passerait pour la suite. Mais je pense qu'on arrivera à le voir.
Rappelle-nous le titre et l'année.
Alors, ça s'appelle Time to Love 1966.
Time to Love 1966, en tout cas, ça donne très envie, effectivement. Je ne connaissais pas du tout, mais envie de le découvrir peut-être prochainement. Alors, on passe à Marc. Marc, de quel film veux-tu nous parler? Quel est ton coup de cœur de ce festival?
J'ai pas mal hésité quand tu m'as posé la question avant ce podcast-là. Avant d'en venir à mon préféré, je vais faire deux mini parenthèses très courtes, c'est promis. Un, parce que même si c'est pas du tout ce que j'ai préféré du festival, j'ai quand même... Vous savez, il y a ces moments dans le Festival Lumière et aussi dans d'autres festivals du monde où on découvre des choses qu'on voit grâce au travail à la fois des programmateurs du festival et en même temps des cinémathèques qui font les restaurations. Et en l'occurrence, moi j'ai vu pour déjà le premier film albanais que j'avais jamais vu, et en plus le premier film albanais produit de manière indépendante par l'Albanie qui s'appelle Tana, qui a été présenté ici au Festival de Cannes, qui est un film qui tient plus du cinéma néo-réaliste italien que du cinéma du bloc soviétique. Mais bon, c'était une... Bon, je n'ai pas adoré en toute transparence, mais c'était néanmoins une vraie belle découverte de s'ouvrir à une cinématographie qu'on ne connaît pas. Ensuite, j'allais dire un mot sur Remorque, parce que j'adore Jean Grémillon. Remorque, c'est Jean Gabin, Michel Morgan, Madeleine Renaud. Pour ceux qui ont vu les films de Jean Grémillon, ils connaissent l'attachement de Jean Grémillon envers ses personnages, qui ont des métiers manuels. C'est souvent un grand réalisateur du geste, du travail, de la main. Là, en l'occurrence, avec des remorqueurs qui viennent dépanner des navires pris dans les tempêtes bretonnes. Bon, c'est un très beau film, excellemment bien écrit par Charles Spack et André Cayatte notamment. Il devrait ressortir bientôt, donc vous le verrez. Et enfin, j'y viens. Là, c'était un peu un des gros événements du Festival Lumière, c'était la projection en ciné-concert de Dans la nuit, l'unique long métrage réalisé par Charles Vanel. Charles Vanel, on connaît comme acteur du cinéma muet et aussi acteur du cinéma parlant français, notamment dans l'un des plus grands films de guerre français, sinon le plus grand, qui est Les Croix de Bois. Mais Charles Vanel a réalisé cet unique film, tourné en 1929 sur la toute fin du cinéma muet, malheureusement sorti seulement en 1930, donc à un moment où le cinéma muet n'avait plus vraiment pignon sur rue, donc un film qui n'a pas pu avoir la réception qu'il aurait dû avoir et a rapidement été déprogrammé, un film qui a longtemps été un peu perdu, difficilement visible, et donc restauré là. En grande pompe est présenté en grande pompe par l'Institut Lumière, en l'occurrence un ciné-concert à l'Auditorium de Lyon, à l'orgue, qui était extrêmement impressionnant. Et donc ce film de Charles Vanel qui raconte l'histoire d'un mineur qui va être défiguré à la suite d'une explosion et va se retrouver dans une aventure cauchemardesque avec sa compagne qui va avoir du mal évidemment à composer avec le traumatisme de son mari. Il va porter pendant une partie du film un sublime masque en métal qui reprend les traits de de Charles Vanel sur la moitié de son visage qui évidemment évoque d'un côté les gueules cassées de la Première Guerre mondiale dont Charles Vanel connaissait bien parce qu'il a fait les tranchées, qui semble préfacer à quelques années près ce qu'on verra plus tard aussi dans Freaks de Todd Browning. C'est un film qui met un petit peu de temps à démarrer parce qu'il y a une scène de mariage très longue. En fait, la structure est connue. C'est un couple d'ouvriers qui se marie. Ils sont très heureux. Le pire arrive et ensuite, comment ils y répondent. Donc, le récit est en fait assez conventionnel avec un ou deux flashbacks dedans. Et en même temps, il y a une mise en scène de Charles Vanel qui est assez impressionnante, qui est à la fois esthétique, qui emprunte aussi un peu au naturalisme. La restauration du film y est aussi, dans les circonstances de la redécouverte, joue aussi, parce que le travail de restauration est magnifique. Et même si c'est peut-être pas un des chefs-d'œuvre du cinéma muet français de cette époque-là, même si encore une fois, il paraît que c'est le dernier film du cinéma muet français, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'on trouvera un film muet français plus tardif, mais ça reste un moment de redécouverte du patrimoine français extrêmement stimulant. Apparemment, le film va tourner dans diverses villes avec divers accompagnements, et on espère une sortie vidéo plus tard pour que le maximum de gens le voient. Et puis ça dure que 1h30, donc vraiment on est sur une redécouverte assez pratique, assez parfaite, d'une petite pépite du cinéma français.
Le genre de film qui s'apprécie très bien en ciné-concert, j'imagine, un des grands moments de ce festival. Merci beaucoup Marc. Autour de Génie.
Bah écoute, moi j'ai découvert les films de Maïs Etterling. Je dis pas ça parce qu'on y a consacré un épisode de notre podcast Silence elle tourne, mais parce que c'est une réelle découverte qui m'a beaucoup touchée, qui fait partie de ce cycle qui existe du coup depuis, je crois, le début du festival Histoire permanente des femmes cinéastes, qui l'année dernière a mis en avant Kinuyo Tanaka. Donc là, on découvre du coup cette année Maïs Etterling, qui est une cinéaste suédoise, qui a été d'abord en fait actrice, une grande actrice du cinéma suédois et du cinéma anglais, parce qu'elle est ensuite partie à Londres, et qui, en fait, à un moment, dans les années après-guerre, a décidé qu'elle voulait devenir réalisatrice et diriger des films, parce qu'en tant qu'actrice, elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle voulait. C'était en plus une militante anti-guerre, très impliquée dans les années 60, 70, c'était une femme qui avait beaucoup à dire, et on voit dans ses films effectivement qu'elle a beaucoup à dire. Et le film qui m'a le plus touchée parmi ceux que j'ai vus, c'est Amorosa, qui est un film elle a fait beaucoup de documentaires, et les quatre films qui sont présentés au Festival Lumière sont ces quatre fictions, et l'un de ces quatre, c'est Amorosa, un film de 1986 qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est artiste, qui est autrice de romans. Elle vient d'une famille aristocratique, elle est totalement incomprise, on lui dit que faut se marier, puis c'est bien si t'écris un petit peu, mais bon, d'abord faut faire des enfants. Donc elle est totalement incomprise, elle écrit pourtant, mais c'est vrai qu'elle n'est pas totalement libre dans son écriture. Donc finalement elle décide de se marier, mais elle se marie à un autre grand artiste, un autre grand auteur, qui lui est dans l'extrême inverse, dans l'ultra liberté à la fois sexuelle, de style d'écriture, et en fait elle est donc dans tous les milieux où elle se trouve, elle est en fait très violentée à la fois physiquement, à la fois mentalement, artistiquement, et donc c'est un film qui parle en fait de comment la société a toujours, parce que du coup ça se passe au début du XXe siècle. Donc c'est une histoire qui, même pour Maïs Etterling, était une projection de la création des femmes dans l'histoire, dans une époque qui était pour elle-même révolue, mais qui raconte en fait que dans la société et dans n'importe quelle époque, la création, la sexualité, le plaisir, le désir des femmes se trouvait être dangereux pour la société et était toujours violenté, quoi. Du coup, ça donne un film qui est en fait très 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 esthétique, parce qu'elle en met même un peu plus pour montrer qu'en fait c'est si beau, qui s'ouvre sur une très très belle séquence à Venise, alors qu'on est dans un film suédois, il y a quelque chose d'un peu magique dans cette première séquence. C'est un carnaval à Venise, ils sont tous masqués, c'est sublime, où en fait on se rend compte qu'il y a un carnaval, mais en même temps elle est en train de se faire enfermer dans un hôpital psychiatrique, parce que les femmes Les femmes sont des hystériques, nous le savons bien. Et voilà, donc c'est vraiment un très beau film sur la peur de la société envers la création des femmes et leur liberté à elles. Et c'est vraiment très puissant.
Et voilà, Lumière du jour, revue et corrigée, La Grande Vadrouille au Festival Lumière, c'est fini. Un grand merci aux équipes du Festival Lumière, aux équipes du MIFC, de Revue et Corrigée, de Tsugi Radio, sans qui tout cela ne serait évidemment pas possible. Nous, on n'a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre vadrouille.